Prévert, l'un des immortels de Serge Gainsbourg, sorti en 1961, une chanson reprise par un très grand nombre d'artistes, et pour Gainsbourg, le prétexte d'aller à la rencontre de Maître Jacques.
Je suis allé voir Prévert, il habitait un Place Véron, c'est ça, à côté du Moulin Rouge. Je vais voir Prévert, à 10h du matin, et champagne.
L'un des immortels de Serge Gainsbourg, sorti en 1961, une chanson reprise par un très grand nombre d'artistes, et pour Gainsbourg, le prétexte d'aller à la rencontre de Maître Jacques.
Je suis allé voir Prévert, il habitait un Place Véron, c'est ça, à côté du Moulin Rouge. Je vais voir Prévert, à 10h du matin, et champagne. Je lui dis, monsieur. Maître.
Immortel de Serge Gainsbourg, sorti en 1961, une chanson reprise par un très grand nombre d'artistes, et pour Gainsbourg, le prétexte d'aller à la rencontre de Maître Jacques.
Je suis allé voir Prévert, il habitait un Place Véron, c'est ça, à côté du Moulin Rouge. Je vais voir Prévert, à 10h du matin, et champagne.
De Serge Gainsbourg, sorti en 1961, une chanson reprise par un très grand nombre d'artistes, et pour Gainsbourg, le prétexte d'aller à la rencontre de Maître Jacques.
Je suis allé voir Prévert, il habitait un Place Véron, c'est ça, à côté du Moulin Rouge. Je vais voir Prévert.
Gainsbourg, sorti en 1961, une chanson sortie en 1961, une chanson reprise par un très grand nombre d'artistes, et pour Gainsbourg, le prétexte d'aller à la rencontre de Maître Jacques.
Je suis allé voir Prévert, il habitait un Place Véron, c'est ça, à côté du Moulin Rouge. Je vais voir Prévert, à 10h du matin, et champagne. Je lui dis, monsieur, maître, j'ai dû l'appeler maître. Non, je dis monsieur, je ne peux pas appeler. S'il y a que Dali, j'ai appelé maître. Mais lui, il m'a appelé maître aussi, Dali. C'est étonnant. Nous, on se rencontrait chez Maxime. Dernière fois, je l'ai vu avec Gala, qui vient de casser sa pipe. Il s'est soulevé, il m'a dit, je lui ai le cul. Il s'est levé, Dali, devant Gainsbourg, et il a dit, oh, vous avez la chasse au papillon. Voilà, j'ai la chasse au papillon. C'est un dessin de Dali de 1930, très grande facture. Vous avez la chasse au papillon, est-ce que vous me permettez de faire venir des photographes pour que ce soit dans des bouquins sur moi, parce que personne ne l'a vu. Donc pour en revenir à Prévert, donc on commence à s'allumer à 10h, diplôme du matin au champagne, moi je le suis, pour être poli. Il y avait un roi, je fais une parenthèse, pour être poli. Justement. La politesse, c'est ça. Il y a un roi anglais, 17e, 18e siècle. 19e. Il fait une halte sur en Chassacourt. Il fait une halte dans la campagne anglaise. Il va bouffer chez un paysan. Il voit le paysan manger ses petits pois avec son couteau. Qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a pris son couteau et a mangé ses petits pois avec son couteau. Ça, c'est la politesse. Pour en revenir à Prévert, la politesse, c'était que je me tape du champagne à 10 diplômes du mat. Il se dit, monsieur Prévert, alors il me dit, oh, c'est moi, mon petit gars, c'est très joli la chanson de Prévert. Et alors je lui dis, d'accord, mais. Vous ne pourriez pas me signer un petit papier pour me donner la permission d'utiliser votre nom. Sinon, j'ai bien poussé au cul. Et il m'a fait ce papier, il m'a dit, bien sûr. Certainement. Et quelques mètres plus loin était Boris Vian. Dont je vais, alors encore un scoop, faire le remake de J'irai cracher sous vos tombes. En tant que metteur en scène. Une chose terrible, et donc il est mort. Il est mort à la projection de J'irai cracher sous vos tombes. Je l'ai su dans les 5 minutes qui suivaient, car nous avions une petite amie commune. Elle m'a téléphoné dans les 5 minutes. Boris est mort. Il a regardé les premières images du film et il dit, c'est ça l'Amérique qui tombe. Et le lendemain, la pauvre petite Ursula, elle a reçu ce mot anonyme. Et si on allait cracher sur la sienne de tombe? Dur. Et il a fait un 25 cm, étonnant. Absolument la pancarte, avec des orchestrations extrêmement modernes. Je bois, voilà, je bois pour ne plus voir ma gueule. C'est bien ça. J'ai beaucoup d'admiration d'abord et puis beaucoup d'amitié parce que c'est une très 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 chic fille et qui m'a aidé d'ailleurs à un moment où j'avais besoin d'être aidé et c'est elle qui m'a décidé de venir à Paris. Là, en cas ça se passait en octobre 46, je suis venu à Paris, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu tout de suite un engagement, j'ai eu un engagement au Bœuf sur le toit où il y a encore le Moïsès qui est décédé l'hiver dernier, qui était le grand Moïse du Bœuf, le grand patron. Et là, je suis resté 3 mois et j'ai commencé à connaître des gens, un peu, vous comprenez. Edith, après, a fait beaucoup pour moi, m'a enregistré une chanson que j'ai écrite avec un camarade qui s'appelle Eddy Marnay. Et la chanson s'appelle Les Amants de Paris, qui commence...
Est-ce que vous avez une belle voix, Léo Ferré?
On s'accorde à dire que j'ai une voix très phonogénique.
Fredonnez-la, la chanson.
Les Amants de Paris.
Les Amants de Paris.
Les Amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants ont de drôles de façons.
Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment pas leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Ça fait d'être à printemps et le printemps fait l'amour. Mon couplet s'est perdu sur les bords d'un jardin. On me l'a jamais rendu et pourtant je sais bien que les amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants de drôles de façons. Les amants de Paris se font à Robinson. Quand on marque des points à coups d'accordéon. Les amants de Paris vont changer de saison. En prenant par la main mon petit grain de chanson. Il y a plein d'or, plein de lilas et des yeux pour les voir. D'habitude c'est comme ça que commencent les histoires. Les amants de Paris se font à Robinson. À Paris, les amants de drôles de façons. J'ai la chaîne d'amour au bout de mes deux mains. Il y a des millions d'amants et je n'ai qu'un refrain. On y voit tout autour les gars du monde entier. Ils donneraient bien 20 ans pour venir s'aligner. Pour eux, c'est pas beaucoup d'heures et pour moi demain. J'en ai collé partout dans leur calendrier. Les amants de Paris ont usé mes chansons. Parmi les amants, j'aime pas leur façon. Donnez-moi des chansons pour qu'on s'aime à Paris.
Édith Piaf donc enregistra Ferré, Les Amants de Paris, en 1948, elle fut la première. Gainsbourg nous l'a dit, il refusa d'écrire pour elle, mais dès 1958, Michel Arnaud eut la bonne idée d'enregistrer deux titres de Gainsbourg, Jeune femme et Vieux monsieur, et puis celui-ci. La femme des uns sous le corps des autres, Michel Arnaud, animatrice vedette en 1958 du cabaret de Francis Claude, Milord Larsouille, dans lequel Serge Gainsbourg tenait le piano. Car avant de s'accepter et de s'imposer chanteur, le chemin fut sinueux, même si, dès 1954, Serge Gainsbourg apparaît sur les registres de la SACEM en tant que compositeur et auteur. Il faudra attendre la rencontre pour qu'il franchisse le pas. Confidence en 1990, au micro de Patrick Chompré et de Jean-Luc Leray.
J'étais pianiste de bar, je me démerdais pas mal. C'est-à-dire j'avais des doigtés. Il y a des pianistes de bar qui sont des tapeurs, c'était nul. Et moi j'avais la science de pianissimo, forte, puis tout ce venait du cœur, tout ça. Donc, on faisait ça tomber. Et en fait, c'était la meilleure initiation, c'était ça. C'était faire les dancing. Oh, il y a un jour un mec qui se plaint, qui vient, parce que généralement, ben, ça se fait de donner un peu de blé au pianiste. Il vient avec 10 balles. La 10 balles de l'époque, c'est un franc, quoi. Et ce Gainsbourg, pouvait jouer. Je lui dis, va te faire mon petit gars, je suis pas un jukebox. J'étais encore peinture, architecture. Et quand je me suis mis jouer dans les dancing, ah ben, je l'ai eu dans le cul parce que la lumière la plus belle, c'est aux aurores, dans les ateliers. Et moi, il fallait que je bosse toute la nuit. Donc, je ne sais pas si c'est une lâcheté de ma part de voir quitter cet art majeur pour être passé à un art mineur ou peut-être instinctivement ou instinctuellement j'avais la préscience de ma destinée. J'étais guitariste et pianiste dans un cabaret rive gauche. Un télo, quoi. Et qui arrive? Boris Vian. Alors moi, je méprisais complètement cet art que je dirais. Mineur. Boris Vian arrive un soir. Avec une gueule blême. Avec un éclairage en surex. Dirons-nous en termes photographiques ou de metteur en scène. Et quand j'ai entendu Vian chanter des choses extraordinaires, comme ça avec un mépris pour... Non, je ne dirais pas mépris parce que c'était pas méchant. Une grande pointure. Je me suis dit, merde, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans quand même. Intelligence, quoi, c'est pas un art mineur. Et là, je me suis mis à écrire. C'est Vian qui m'a motivé. Qui a fait le premier article sur moi? C'est Vian. Alors, il me convoque chez lui. Il me convoque, c'est un peu méchant. Comme il m'invite chez lui. À deux pas de Prévert, pour les Moulins Rouges, sur la première. Il ouvre un bouquin de Cole Porter et me dit, Gainsbourg, vous avez la même technique que Cole Porter, la même technique du rejet. puis il a écrit dans je ne sais pas quel canard, déchaîné. Bande de cons, je te le dis, je viens de voir. Alors, ma première réaction, c'était de prendre une gomme et de voir si mon nom pouvait s'effacer. J'étais un peu con, ça m'a flatté. C'est que c'était indélébile. Et mon nom ne pouvait pas s'effacer.
Serge Gainsbourg, quand j'aurai du vent dans mon crâne. Lorsque Gainsbourg apparut, Ferré, lui, fêtait ses 10 ans de chanson, et pour l'occasion, Lise Lina lui tendit son micro. C'était le 19 novembre 1958.
De la Villa d'Est au Bœuf sur le Toit, ou plutôt du Bœuf sur le Toit à la Villa d'Est, 10 ans vous séparent de vos débuts, Léo Ferré. Pouvez-vous nous dire, à cette époque-là, comment était le Bœuf, comment était la chanson?
Mais le Bœuf était, vous savez, dirigé par ce personnage étonnant, qui était un personnage très gentil, qui a connu des tas de choses dans mon métier. Il s'appelait Moïsès, il est mort depuis. Et un jour, je suis allé le voir, j'ai chanté des chansons, il m'a engagé immédiatement, ce qui est très rare pour les débutants, vous savez, surtout lorsqu'ils chantent des chansons.
Qu'il écrit eux-mêmes.
C'est ça, oui.
Et quelle sorte de chansons aviez-vous proposé à Moïsès?
Mais je chantais les chansons que j'avais faites à ce moment-là, j'en avais 5 ou 6. Dont deux chansons dont j'avais fait uniquement la musique, et ces deux chansons sont La Chambre et Le Scaphandrier, avec des paroles de Baer.
Il y avait des chansons dites un peu intellectuelles à l'époque.
Ben, les chansons intellectuelles étaient des chansons qui étaient nouvelles, ça paraissait intellectuel parce que c'était nouveau, vous comprenez. Et puis il y a eu après la libération un sang nouveau donné à la chanson, et je crois que Prévert et Cosma, Prévert y est pour beaucoup, n'est-ce pas?
Il y a eu la chanson Paris Canaille, qui n'avait d'ailleurs rien d'intellectuel, tout au moins par le titre, qui a eu beaucoup de difficultés à trouver sa place.
Au début, oui. Cette chanson a été évidemment éditée, mais j'avais été voir un autre éditeur, un premier éditeur, et j'avais été lui dire, c'était un samedi, j'ai dit, voilà, je vous vends cette chanson, si vous voulez. Vous savez qu'on vend une chanson, c'est-à-dire on cède les droits d'éditeur à une chanson. Et il m'avait dit, oui, je vais voir, c'est intéressant. Il me dit, je vous prête l'argent, et si ça m'intéresse, j'aurai la chanson. Alors je suis allé le voir le lundi, il m'a rendu l'argent.
Et la chanson?
Il m'a laissé l'argent en me disant, c'est un prêt, et il m'a rendu la chanson.
C'est ça, ça s'appelait Paris Canaille, et aujourd'hui tout le monde la chante.
Oui.
Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles, et tes gueulantes d'accordéon, ça fait pas 30, mais c'est si bon. Tes gigolos, tes déshabilles, sous le métro de la Bastille, pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brin des lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille, c'est si bon. Des délacroix, bébères d'envers, ça fait des mois qui sont au vert, alors ces dames se font une raison, elles sont bigames, et c'est si bon. Paris, j'ai bu à la voix grise, le long des rues, tu vocalises. Y a pas d'espoir dans tes haillons, toujours le trottoir, mais c'est si bon. Tes vagabonds te font des scènes, mais sous tes ponts coule la Seine. Pour la romance et illusion, y a de l'affluence, mais c'est si bon. Mômes égarés dans les faubourgs, prairies pavées où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison, on a eu tort, mais c'est si bon. Regard perdu dans le ruisseau, où va la rue comme un bateau, ça tangue un peu dans l'entrepont, c'est laborieux, mais c'est si bon. Paris flonflon, t'as la manfrette, et des millions pour tes poètes, quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime, et c'est si bon.
À Bobino, en 58, Paris Canaille. Voici l'heure de notre quatrième épisode du récit radiophonique signé Madeleine Rabereau et Léo Ferré, de Sac et de Corde. Jean Gabin tient toujours, bien sûr, le rôle du récitant, nous entraînant dans son aventure maritime et quasi picaresque. Marex, l'Iven, de l'opéra comique, chantera La fille du pirate.
Les voyages ne forment rien du tout. Ça m'était difficile de croire à mon destin, sachant que tous les rêves se brisent comme les vagues au long des côtes.
sont à marier avec une gueule à perdre, ils le savaient. C'est pourquoi ils pouvaient se permettre d'avoir la confession joyeuse. On trahit toujours quelque chose. L'important, c'est de savoir choisir ses trahisons. Lui, il avait su.
Patate royale, ces commissions l'ont cherché. Les pirates des mers australes pour les saisir et les brancher. Les cabergues de misaine entre sans joyeux bandit quittent les îles lointaines et le roi me paiera. Dans ma course au coquin, je n'ai vu par aventure que de pauvres vrais requins. Cela fait bien des semaines que je navigue sans voir une coque qui amène le hardi papillon noir. Que le chef des pirates serait le pire des forbans, et qu'il ne craint ni ma frégate, ni la furie des océans. Qu'il a mis un facteur de ville, quand il tente d'assassiner, qu'il en a l'esprit bien tranquille. Il ne sait plus où il en est. L'Amazone aux yeux verts est restée belle gentille au milieu de cet enfer. Moi je ris lorsque j'y pense, quand ma fille, les garçons, c'est tout gibier d'un ce soir, sous les étoiles, le soleil à peine couché. L'océan se couvre de voiles qui hissent le Jolly Roger. Et malgré tout notre courage, dans le massacre surhumain, moi, j'ai perdu. Adieu, marquise à ruban, et vive dans la canaille, et vive dans le corban. Carolosse scélérate, je sors au toit, car au fou, c'est la fille qui frappe, la corne
de Saquet de Corne, diffusé le 5 février 1951 sur le Poste Parisien. C'est notre feuilleton de cet été de Saquet de Corne, le 5e épisode, bien sûr, demain sur France Inter, même heure, même antenne.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne.
La chanson de Prévert, l'un des immortels de Serge Gainsbourg, sorti en 1961, une chanson reprise par un très grand nombre d'artistes, et pour Gainsbourg, le prétexte d'aller à la rencontre de Maître Jacques.
Je suis allé voir Prévert, il habitait un place Véron, c'est ça, à côté du Moulin Rouge. Je vais voir Prévert, à 10h du matin, et champagne. Oh là, c'est dur. J'ai dit monsieur, maître, j'ai dû l'appeler maître. Non, j'ai dit monsieur, je ne sais pas. S'il y a que Dali, j'ai appelé le maître. Mais lui, il m'a appelé maître aussi, Dali. C'est étonnant. Bon, on se rencontrait chez Maxime. Dernière fois, je l'ai vu avec Gala, qui vient de casser sa pipe. Il s'est soulevé, il m'a dit, se lever le cul. Il s'est levé, Dali, devant Gainsbourg, et il a dit, oh, vous avez la chasse au papillon. Voilà, j'ai la chasse au papillon. C'est un dessin de Dali de 1930, très grande facture. Vous avez la chasse au papillon, est-ce que vous me permettez de faire venir des photographes pour que ce soit dans des bouquins sur moi, parce que personne ne l'a vu. Donc pour en revenir à Prévert, donc on commence à s'allumer à 10h, 10 pompes du matin au champagne, moi je le suis, pour être poli. Il y avait un roi, je fais une parenthèse, pour être poli. Justement. La politesse, c'est ça. Il y a un roi anglais, 17e, 18e siècle. 19e, pardon. Il fait une halte en Chassacourt, il fait une halte dans la campagne anglaise. Il va bouffer chez un paysan. Il voit le paysan manger ses petits pois avec son couteau. Qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a pris son couteau et a mangé ses petits pois avec son couteau. Ça, c'est la politesse. Pour en revenir à Prévert, la politesse, c'était que je me tape du champagne à 10 diplômes du mat. Il se dit, monsieur Prévert, alors il me dit, oh, c'est moi mon petit gars, c'est très joli la chanson de Prévert. Et alors je lui dis, d'accord, mais... Vous ne pourriez pas me signer un petit papier, quoi, vous me donnez la permission d'utiliser votre nom, sinon j'ai bien poussé au cul. Et il m'a fait ce papier, il m'a dit, bien sûr, certainement. Et quelques mètres plus loin était Boris Vian, dont je vais, alors encore un scoop, faire le remake de J'irai cacher sous vos tombes, en tant que metteur en scène. Une chose terrible, et donc il est mort. Il est mort à la projection de J'irai cracher sur le tombe. Je l'ai su dans les 5 minutes qui suivaient, car nous avions une petite amie commune. Elle m'a téléphoné dans les 5 minutes. Boris est mort. Il a regardé les premières images du film, et il dit, c'est ça l'Amérique qui est tombée. Ah, rien. Et le lendemain, la pauvre petite Ursula, elle a reçu ce mot anonyme. Et si on allait cracher sur la sienne de tombe? Dur. Hein? Et il a fait un 27 cm, étonnant. Absolument la pancarte, avec des orchestrations extrêmement modernes. Je bois pour ne plus voir ma gueule. C'est bien ça.
Gainsbourg, c'est...